The FM.
Bonjour tout le monde, ici Brian Wimet et bienvenue à l'épisode 31 du Bulletin FM.
Pourquoi épisode numéro 31, Brian?
Dans le fond, l'épisode numéro 31 que porte Monsieur Esteban Ocon, le jeune pilote français qui vient de signer chez Renault pour la saison 2020. C'est en l'honneur de ce jeune pilote qui a manqué malheureusement la saison 2019, mais revient en force avec l'écurie française. Esteban Ocon, lui, qui a, on se rappelle bien, piloté en 2016 avec Manor, 2017-2018 avec Force India aux côtés de Sergio Perez, encore aussi en 2018 avec Racing Point, mais qui est la même équipe, et là, revient en force avec l'écurie française, a fait ses débuts la semaine passée dans le véhicule et dans la monoplace, et fait les essais Pirelli pour les pneus de la saison 2020.
Alors, c'était l'introduction que mon ami Brian voulait faire parce que je pense qu'il avait entendu cet épisode depuis très longtemps. Puis d'ailleurs, je te laisse aussi faire l'épisode numéro 33 si ça te tente.
Cool.
C'est même très bientôt en plus, donc ouais. C'est ta chance. Alors bonjour tout le monde, ici Abdou Sal, aussi l'animateur du Bulletin F1, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous allons faire le bulletin de notes de la saison 2019 de Formule 1 qui vient de se terminer la semaine passée. Ouais, ça fait déjà une semaine que le dernier Grand Prix de la saison a eu lieu. Donc, c'était logique qu'on fasse notre bulletin de notes cette saison. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs. C'est un départ. Alors, comme je vous l'ai dit, une semaine depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi, dernière épreuve de la saison. Maintenant que tout le monde est parti, à part George Russell et Mercedes qui, au moment de diffuser, étaient en train d'effectuer des tests de Pirelli, tout le monde est en mode vacances et préparation pour la saison 2020. Mais nous, au Bulletin F1, on a décidé de commencer une série de revues de la saison 2019. Et pour commencer, comme on l'avait fait à la mi-saison avec Marc-André, on va faire un bulletin de notes global de la saison 2019. Alors, je vous explique le concept. On va y aller avec l'ordre inverse des écuries. Donc, à tout seigneur, tout honneur, malheureusement pour Claire Williams, on va commencer avec son écurie. Et on va finir avec Mercedes. Donc, si jamais vous êtes d'accord ou pas avec les notes, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Twitter, ainsi que sur notre site. Alors, sans plus tarder, commençons tout de suite avec Claire Williams, avec l'équipe de Claire Williams, qui a fini 10e avec un petit point. Brian, je vais te laisser l'honneur de nous donner la note pour la saison 2019 de Williams.
Je vais être quand même très généreux, Abdou. On se cachera pas. Williams a eu une saison très ardue, puis je pense que c'est une saison qu'on s'y attendait depuis la fin de 2018, en fait.
Oui.
Pour Williams, je vais donner un 5 pour l'effort. Je sais que Williams, au fil des années, ils ont commencé à avoir des difficultés au niveau monétaire, au niveau économique. Je sais que ça a été dur. Je sais que là, Ils ont embauché deux jeunes pilotes en 2018, Sergei Sirotkin et Lance Stroll. Puis là, on voit que Sirotkin, mais ben, lui qui amenait l'argent à l'écurie, ben là, il commence à être déficitaire un petit peu. Là, ils ont ramené un ancien pilote, Robert Kubica, pour. Ils ont annoncé le prochain pilote pour 2019, Robert Kubica. Et encore là, on se rend compte que c'est un pilote qui payait son siège, ramenait un petit peu d'argent à l'écurie, ce qui était pas mauvais, mais je pense que ce n'était pas assez. Puis c'est là qu'on se rend compte que la Formule 1, c'est un sport qui le meilleur, c'est lui qui met le plus d'argent dans sa voiture, qui met le plus d'argent dans son écurie, puis c'est quelque chose qui paraît. Je pense aussi que comment je pourrais dire, j'ai juste vibe dans la tête, mais c'est cette pensée, cette humeur, ça c'est ressenti chez Mercedes, chez Williams, ça s'est ressenti chez dans l'écurie. Toute la saison 2019, on a questionné le leadership de Claire Williams, on a questionné si l'équipe, ça valait encore la peine qu'il soit en F1 avec les déficits d'argent qu'il y avait. Est-ce que ça valait la peine pour cette équipe-là d'être encore de continuer malgré toutes les faiblesses que cette écurie avait. Là, si on prend un pas de recul au niveau de la saison, si on voit, il n'y a pas une fois que la Williams s'est rendue en Q2, là, on voit que peut-être que avoir embauché Robert Kubica comme pilote chez Williams était peut-être une mauvaise idée. On voit que George Russell, qui est le dans sa première année de Formule 1, on voit qu'il a performé, oui, aux attentes de l'écurie. On s'entend que le pilote est exceptionnel, mais c'est la voiture qui ne donne pas assez, je crois. Et en plus de ça, Russell qui a battu à plat de couture le nombre de qualifiés. Il a out-qualified son partenaire à plat de couture tout au long de la saison. Tu sais, le point, c'est un point, je pense que c'est un point chanceux qu'ont gagné au cours de la saison. Je pense que c'est de la malchance après de la malchance après de la malchance, ou juste une question de comment dire, de coïncidence, tu sais, dans un Grand Prix du monde qui se font DNF par des problèmes, par une problématique X, ça a vraiment permis à Williams de Williams Mercedes d'avoir un certain point dans la saison. Pourquoi je donne mon 5, c'est comme je disais, je pense qu'il y a une certaine persévérance chez Williams, puis que je dois reconnaître. Mais encore là, je connaissant l'ancien Williams des années 2000 à 2010, je sais qu'ils sont capables de faire mieux. Je sais qu'ils sont capables de performer mieux. Mais encore là, je ne pense pas que ça va être pour la prochaine saison. Je pense qu'on va encore devoir donner 2 ans à l'écurie Williams. Il faut se rappeler aussi que Williams est une écurie qui est privé, qui en fait n'a ouais. pas de subvention de aucune, tu sais, n'est pas un motoriste de profession, n'est pas un concepteur de profession non plus. C'est une famille privée, c'est une famille qui de multimilliardaires qui rentre en Formule 1 juste pour le fun d'être en Formule 1. Fait que leur fonds n'est pas leur revenu monétaire n'est pas constant, c'est pas un budget qui est aussi gros que Ferrari ou Mercedes, on s'entend. Puis c'est une écurie qui vit souvent avec, c'est une écurie qui vit de subventions. Fait que c'est clair qu'il y a une certaine inégalité là-dessus pour Williams. Là, la Liberty Media veut essayer de remédier ça pour 2021-2022. C'est encore à voir si c'est quelque chose qui va être encore à jour pour les prochaines années. Mais c'est ça. Mon point est que Williams, avec un point, je suis un petit peu déçu de leur performance durant la saison. Je sais qu'ils ont eu des meilleurs moments, mais c'est pas mal décevant de la part de Williams.
Oui, je suis d'accord avec plusieurs de tes points. Moi, j'ai été un peu plus sévère. Moi, j'ai donné un 4 à Williams. Oui, ça a été une saison en deçà des attentes et même pire que la saison passée. Et il ne faut pas oublier aussi que pendant la pré-saison, Leur voiture est arrivée en retard. Il y a eu un retard dans la conception, il y a eu un retard, ben, évidemment, dans la livraison. Donc, ils ont manqué énormément de temps là pour tester la voiture. Oui, elle a été fiable pour la majorité de la saison. Et d'ailleurs, c'est une des équipes qui a le moins abandonné. Mais les performances n'étaient pas là. Donc, comme tu l'as dit, Brian, ça va prendre minimum, moi je dirais même, c'est ça, minimum 2 ans, peut-être même jusqu'en voir 2021-2022 avant de revoir Williams progresser. Oui, moi je te dis honnêtement, et Kubica, ça a pas été la révélation, le retour de la révélation espérée. C'est sûr qu'à maintenant 35 ans, tout réapprendre c'est bien. Il a très bien persévéré aussi. Russell, j'ai rien à redire. Ben, de toute façon, quand je vais lui donner les notes, vous allez comprendre pourquoi. Mais il y a aussi le départ de Paddy Law aussi pendant la pré-saison aussi, qui a fait mal aussi, mais qui était un peu attendu parce que depuis son retour, c'est la dégringolade. Donc
Mais il faut pour ceux qui ne connaissent pas Paddy Lowe, c'est un directeur technique chez Williams qui était connu depuis longtemps. Lui qui a été un ancien directeur exécutif chez Mercedes, qui est revenu chez McLaren aussi, qui a fini par faire sa course, qui finit son comment dire, son parcours chez Williams. Puis je me rappelle très bien en début de saison 2019, quand il a décidé de se retirer de la Formule 1, qu'il avait carrément dit à des journaux sportifs qu'il était tombé dans un he fell into a trap, dans le sens qu'il était tombé dans un piège en rentrant chez Williams. Puis ça lui a donné un gros impact chez Williams sur la conception de la voiture et sur le moral de l'équipe aussi. Même si on s'entend que par terre assez rapidement.
Oui, donc ce qui explique aussi pourquoi la saison a été de mal en pis pour Williams. Tout de suite, je vais donner la note au pilote. Robert Kubica, je lui ai donné un 5. Un 10 pour l'effort, parce que revenir après 8-9 ans d'absence de la Formule 1, après un terrible accident de rallye, là, c'est de la grosse détermination. En piste, ça n'a pas très bien été, même si c'est lui qui a ré récolté le point bonus. Comme tu l'as dit, Brian, il a été battu en qualification tout au long de la saison par George Russell. Et en plus de ça, bon, il y a eu quelques éclats où il a été devant, mais à chaque fois, il a eu des problèmes où il s'est accroché, comme on l'a vu la semaine dernière à Abu Dhabi, un accrochage avec Antonio Giovinazzi, et bien sûr, l'a rattrapé dans la plupart du temps, là. Donc, oui, Kubica, c'est une très belle histoire, son retour en Formule 1, après tant de persévérance et tout. Mais persévérer et obtenir les résultats, ce sont deux choses différentes. Alors, malheureusement, je dois donner un 5 à Kubica. Et quant à George Russell, ben, moi, je vais lui donner un 7. C'est sûr qu'il est le seul pilote à ne pas avoir marqué de points, mais la plupart du temps, il a fini devant le Polonais. Ça se voit que Russell a le talent pour être un bon pilote en Formule 1 avec une écurie meilleure que ça. Donc, il ne faut pas nier son talent parce que la voiture était une Lada carrément, là. Donc, non. Je pense que ce serait un peu injuste de donner une mauvaise note à Russell pour la saison qu'il a connue.
Exact, exact. Moi, je pourrais aller du même pas avec mon évaluation personnelle. Je pense que Robert Pizza, quand même, faut donner des points pour la persévérance. Et que je donne un 6 aussi. On voit que ça a été une saison difficile pour. Ça a été un retour et une saison difficile pour Robert Pizza. Sinon, pour ce qui est du jeune Britannique, j'ai donné un 7 aussi. Je trouve que Il a gardé la tête haute malgré les performances de sa voiture. Il a toujours persévéré. Il a quand même, tu sais, en Formule 1, on dit toujours que son plus grand rival, c'est toujours son coéquipier. Puis je pense qu'il a tenu tête à son coéquipier, qui a prouvé à l'écurie de quoi il était capable.
Oui, effectivement, je suis bien d'accord. Donc, Williams, l'année prochaine, a du pain sur la planche. On s'attend pas à ce qu'elle se retrouve dans la bataille du milieu de peloton aussi vite dès le début de la saison, ce qui serait.
Définitivement pas.
Le seul moyen, c'est de demander à Panoramix de leur concocter une potion magique. Mais Panoramix n'existe pas, alors. Il va falloir trouver les outils pour.
Mais là, ils ont un...
Ouais,
Oh, excuse-moi, excuse-moi,
non,
ce que je voulais
vas-y.
dire, je vais amener, c'est que là, quand ils commencent à avoir peut-être un nouveau fonds de la Banque Royale du Canada, je veux dire, le prochain pilote s'appelle Nicolas Tiffy, un jeune Torontois de 21 ans, je pense,
24. 24.
24, ah, 24, excusez-moi, 24, mais là, on voit que Nicolas Latifi, lui, qui est sponsorisé par la Banque Royale du Canada,
Ma
peut-être que
banque.
c'est peut-être une source de revenus pour Williams, mais je ne pense pas qu'ils vont aller là tout de suite. Je pense qu'ils vont en parler tout de suite, mais ça pourrait être intéressant pour Claire.
Oui, donc non, exactement. Je pense que peut-être Latifi pourra amener un peu plus que Robert Kubica l'a fait. Je m'attends pas à une saison aussi au même niveau que George Russell, mais t'sais, je pense que ce serait mieux, mais attendons voir lors des essais pré-saison en Espagne en février 2020. Et c'est ma banque d'ailleurs qui risque d'être sur la voiture, donc il va avoir un
Ah,
senti.
c'est ma banque aussi, ma banque aussi.
Ah ben!
Mais non, maintenant tout le monde sait qu'on est avec la banque royale.
Ah non, 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 vous ferez non, non, vous ferez pas comme Desjardins, là, venez pas voler nos.
Passons à la prochaine écurie, mon
Oh,
cher.
oh, oh. Est-ce que. Il va falloir qu'on me retienne là parce que cette écurie-là. Ouh!
Parfait. Donc, on va parler de l'écurie qui est arrivée en 9e position devant Williams Mercedes. On va parler de Haas, Ferrari, qui ont amassé 28 points au cours de la saison, qui eux aussi ont eu des up and down durant la saison. Mais là, il faut commencer du début. Enfin, il faut commencer par le commencement. Haas, Ferrari ont eu une très, très, très belle, un très, très, très beau début de saison. On se le cachera pas. On se le cachera pas, ils ont eu des performances inégalées durant les premiers circuits. Je me rappelle là, en Australie, on voit que Kevin Magnussen, sixième en Australie, puis on voit OK, oui, Romain Grosjean avait une petite problématique en Australie, mais quand même, Magnussen avec 8 points en première course de la saison, Bahreïn. Même quasiment la même chose. On voit Kevin Magnussen, là, qui est peut-être un petit 13e, c'est pas plus grave que ça. Puis Romain Grosjean. Le début Grosjean était difficile, mais Magnussen a su tenir la route encore là pour ce qui est du Grand Prix de Chine. Une petite 13e position pour Valentino. Fait que ça a été un bon début, mais je pense qu'il y a eu du rattrapage à faire après la Chine.
Oh, écoute, la saison de Haas est même pire que ça, là. Tu parlais justement d'Australie. Au final, c'était la voiture qui fonctionnait le mieux parce que, même Romain Grosjean l'a dit, il y a eu des évolutions au cours de la saison, comme c'est le cas normalement, là. Quand tu veux progresser, tu fais évoluer ta voiture à quelques endroits précis.
Non, oui, bien sûr.
Mais Haas, le problème, c'est qu'au final, la voiture 2.0 était pire que la version originale qui est arrivée en Australie. Et c'est ça qui a été un peu la chute. Final, et en plus, même Gunther Steiner l'a dit, l'écurie aurait dû écouter leur pilote un peu plus. Puis c'est ça qui est arrivé parce que je pense que Haas n'a pas marqué de points depuis le Grand Prix d'Allemagne, puis ils en ont arraché en masse.
Puis on s'est entendu que depuis le Grand Prix d'Allemagne, ça a été juste une bad luck pour les écuries de haut peloton. Puis juste les écuries de milieu puis de fin de peloton en ont profité puisque c'était comme pas mal. Il pleuvait, si on se rappelle bien, à Hockenheimring, et que ça a été vraiment difficile la gestion. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte qu'ils ont gagné des points. Tu sais. C'est pas comme s'ils avaient bien performé.
Non, c'est ça, je pense. C'était un peu à l'écart lors de ce Grand Prix. Ils ont tenté de tirer leur épingle du jeu, mais ça a été en vain. Et en plus de ça, ça a été entre autres marqué par des accidents qui n'étaient pas voulus et surtout quelques accrochages entre coéquipiers qui n'auraient jamais eu lieu d'être. Je pense entre autres. En Espagne, où il y avait une bataille entre les deux, c'est Magnussen qui a tassé Grosjean, je pense, là, puis ça a ouvert la porte aux autres pilotes pour dépasser le Français. Et pire que ça, là, il y a eu le Grand Prix de Grande-Bretagne où les deux pilotes se sont accrochés et ont dû abandonner la course. Donc, et ajouter à ça aussi les performances en course, là, où pourtant t'avais Grosjean qui se qualifiait très bien, mais à la fin, là, c'était un recul en arrière. Et je ne veux pas parler du commanditaire qui était avec eux depuis le début de la saison, parce que je vais partir sur une grosse tirade au cours des
Ben,
prochaines.
je pense qu'on a pas mal tout, on se rappelle tout de ce qui s'est passé avec Rich Energy, là. On n'en fera pas un plan avec ça.
Ouais, c'est ça. Donc, on repart pas
Bon.
avec ça. Donc, en général, moi, je donne un 5 à As, un 6 à Magnussen parce qu'il a été meilleur que Grosjean, et un 5 à Grosjean.
Bon. Moi, dans l'ensemble, je vais donner un 6 à Oz et je vais donner un 6 à Magnussen et un 4 à Grosjean.
Oh! Ouais, ok. Ouais, ça, c'est quand même. Ça, un 4, ça se mérite quand même, ouais.
Ouais. Donc, on va passer à la prochaine écurie qui est la petite équipe école de Ferrari. On va parler de Alfa Romeo Racing Ferrari. Donc, on s'appelle que Alfa Romeo Racing est arrivé en 8e position et s'est énormément amélioré de sa saison 2018 et 2017 avec Ericsson oh mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire.
Charles
Oui,
Leclerc.
Leclerc, c'est vrai, qui est maintenant chez Ferrari. Un gros blanc de mémoire, pardonnez-moi. On se rappelle par exemple, en Australie, un bon départ pour l'équipe école, du 15e pour un Giovinazzi, puis un petit 8e position pour Kimi Raikkonen, ce qui est très, très, très bon. Faut se rappeler que, il y avait qu'en fait, il y a eu un échange de pilotes chez entre Ferrari et Alfa Romeo vu que le contrat de Kimi Raikkonen prenait fin en 2019, ben son équipe junior l'a rappelé pour je pense que c'était une question de développement, je pense, chez Alfa Romeo, surtout qu'on voudrait garder un pilote comme ça expérimenté qui connaît les voitures, point. Je pense que du côté de Alfa Romeo, son but était de garder Kimi Raikkonen comme numéro un, mais plus côté développement. Sinon, on parle de Antonio Giovinazzi, qui est un ancien pilote junior de Ferrari, qui est rentré chez Alfa Romeo comme pilote numéro 2, qui a connu des hauts et des bas comme saison, mais qu'il a quand même été très, très, très constant. Je peux le comparer un petit peu comme Nico Hülkenberg au fil de ses années, comme haut et bas, mais a quand même su tenir tête au milieu de peloton, ce qui est une très bonne chose. Fait que pour mon évaluation personnelle, je pense que l'évaluation globale de l'écurie, je lui donne un bon 7. J'étais généreux sur mon 7, je pense. Et pour ce qui est Kimi Raikkonen, je vais lui donner un 7 pour sa performance aussi. Puis Giovinazzi, on s'entend, c'est la première saison aussi. Fait que je vais lui donner un 6 sur 10.
Ouais, je suis d'accord pour toi pour Raikkonen. Bon, je lui ai donné un 6,5 parce que il y a eu des hauts et des bas aussi sur sa saison. T'as un très bon début de saison, Mais Giovinazzi aussi, bon, c'est sa première année complète aussi, je suis d'accord. Mais ça a été une saison en deux temps pour Alfa Romeo. La première, ça s'est très bien passé, de très bonnes performances. En Autriche, ça a été bien. À un certain moment, Raikkonen s'était même retrouvé troisième en début de course. Giovinazzi en a profité aussi pour marquer ses premiers points. Sont les pneus et aussi au Brésil, quatrième et cinquième, définitivement le meilleur résultat d'Alfa Romeo. Mais pour moi, le pire moment de leur saison, là, ça a été en Allemagne où ils ont perdu leurs points en raison de procédures au départ qui étaient illégales, en fait. Je pense, si je me souviens bien, c'était par rapport à des réglages qui étaient un peu trop, pas automatisés, mais un peu trop descriptives, je te dis. Je te dirais. Donc, c'est ce qui a en fait ouvert la porte au premier point de Kubica. Mais Alfa Romeo, ça a été un très bon début de saison, puis ensuite, ça a été une chute libre. Et ironiquement, ça a été là où Giovinazzi a vraiment connu ses meilleures courses lors de la deuxième partie de saison. Pourtant, la voiture n'était pas si bonne que ça. Donc, je pense que je suis d'accord avec tes notes aussi. Mais moi, j'ai donné un 6 à Alfa Romeo en général. Ça aurait pu être un 7 si ça avait été à certes, il y a eu des courses où ça aurait pu être mieux. Et je pense, entre autres en Allemagne, si n'eût été de ça, de ce qui s'est passé en Allemagne, moi aussi, j'aurais donné un 7 à Alfa Romeo.
Ok. Good.
Donc, on va passer maintenant à une écurie qui, tout comme, bon, qui a changé de nom comme Alfa Romeo, qui était avant Sauber. Officiellement, c'est devenu Racing Point qui succède à Force India comme étant une équipe basée à Silverstone. Alors, c'était 73 points pour l'équipe anglaise avec un groupe de consortium nord-américain, principalement canadien. Racing Point pour la première saison complète sous ce nom. Je m'attendais pas à grand-chose. Autant Sergio Perez et Lance Stroll ont connu des saisons très différentes. Un qui a très bien performé, l'autre qui a eu quelques très bons flashs, mais encore là des problèmes d'inconstance. Et je sais qu'il y a Martin Leclerc. De Radio-Canada Sport qui demandait si Lance Stroll méritait sa place. Il le mérite, mais c'est juste qu'il doit travailler sur certains trucs. Mais la voiture, disons, il a fallu attendre, je pense, jusqu'en Allemagne avant qu'ils aient leur vraie version, là. Donc, Allemagne ou Hongrie, je pense, avant qu'ils aient leur vraie version. Donc, moi, je vais donner.
C'est
Oui, vas-y.
un petit peu de retard, ça, je le dis.
Oui, c'est ça. C'était un petit peu de retard aussi. Donc, en général, moi, je vais donner un 6,5 à Racing Point. Je vais donner un 8 à Sergio Perez parce que sur l'ensemble de la saison, dès la première partie, c'était correct. C'était pas si impressionnant. Mais depuis le Grand Prix de Belgique, il a été souvent étincelant. Puis le Grand Prix d'Abu Dhabi où il a fait un arrêt. Il a été un des derniers pilotes à s'arrêter pour aller chercher cette septième place. Ouais, septième place en dépassant Lando Norris. Là, un très beau dépassement. Là. C'est pour ça qu'il mérite un 8. Puis Lance Stroll, ben, je lui donne un 5,5 malgré le fait qu'il ait terminé quatrième en Allemagne.
Honnêtement, je pense que je vais aller du même pas pour ce qui est des cotes. Je vais aller du même pas. J'ai rien à rajouter pour être honnête avec toi. Juste tout à fait en accord avec toi.
Ouais, donc moi je pense que. Mais je vois qu'il y a du progrès, au moins l'équipe fait du bon travail quand même. C'est sûr que c'était pas comme les deux dernières années lorsqu'ils s'appelaient Force India, où ils étaient la meilleure équipe du restant du peloton. Mais je pense que bon, il y a ce changement de propriété, de propriétaire, pardon. Évidemment, ils essayent entre autres de se préparer pour 2021. Qui sait, peut-être que ce sera sous le nom de Aston Martin parce qu'il y a des rumeurs comme quoi Lawrence Stroll serait prêt à racheter Aston Martin et à faire en sorte d'amener la marque de voiture de James Bond en Formule 1. Donc, qui sait, peut-être que l'avenir est peut-être rose, sans vouloir faire un jeu de mots, chez Racing Point. Mais en tout cas, moi, je pense que pour 2020, peut-être qu'il y a un certain progrès à faire et ça, on s'en va vers la bonne direction.
Bon, passons à la prochaine écurie qui on commence à rentrer dans le milieu de peloton en Formule 1. On va commencer par Scuderia Toro Rosso Honda qui cette année a fait un nouveau pas, a fait un pas de géant en fait comme je pourrais dire avec l'arrivée d'un nouveau pilote qui était Alex Albon dans le temps et son coéquipier. Excusez, j'ai
Daniel
vraiment un
Kvyat.
gros brain. J'ai eu un gros brain fart,
Wow.
excusez-moi. Genre énorme brain fart, oui. Torpedo, en fait, en fait, Toro Rosso, qui s'en allait sur faire un nouveau pas avec deux nouveaux pilotes, ben un ancien puis un rookie. Il s'en allait sur un nouveau pas, sur une nouvelle philosophie, et ça a porté fruit chez la Scuderia. On a fait un switch après ça avec Alexander Albon, avec Pierre Gasly, qui ne fournissait pas chez Red Bull, mais ça, on en reparlera quand on sera rendu à Red Bull. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'ils ont eu une très belle saison. Ils ont su tirer du meilleur du motoriste Honda, ce qui est une très 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 bonne chose. Et je leur donne un 7 sur 10. Pour l'ensemble de l'écurie, je donne à Alex Albon, qui est le pilote de au départ de Toro Rosso, un bon 6,5 chez Toro Rosso, mais je vais me rectifier chez Red Bull. Et je donne initialement à Pierre Gasly pour le reste de la saison un bon 7 parce que je trouve qu'il s'est réadapté, il s'est repris en main chez Toro Rosso. Pour ce qui est de Daniel Kvyat, je lui donne un 7,5. Je trouve qu'il a été constant toute la saison, très 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 bon pilote. C'est révisé, c'est concentré, c'est moins agressif sur le volant. Je trouve qu'il était une saison sage pour Daniel Kvyat et il mérite son siège chez Toro Rosso Honda.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Brian. Moi aussi, j'ai donné un 7 à Toro Rosso, mais j'étais un peu plus généreux avec les trois pilotes. J'ai donné un 8 à Daniel Kvyat parce que moi, c'est vrai. Puis, tu sais, on en a parlé énormément depuis qu'on a commencé le podcast en avril. Kvyat est un pilote transformé. Et ce n'est pas pour rien que son podium en Allemagne était amplement mérité, sa troisième place. T'sais, oui, il y a la stratégie, mais il faut savoir garder son sang-froid. Puis c'est ce qu'il a fait cette journée-là. Puis je l'ai trouvé en général très bon au cours de la saison. Donc, il a été le pilote que beaucoup espéraient voir chez Red Bull. En fait, un pilote très constant, capable de livrer la marchandise. Quant à Alex Albon, moi, je suis allé avec un 8. Le Albon de Toro Rosso, je lui ai donné un 8 parce que ce qu'il a fait au cours de la saison pour un pilote qui n'avait aucune expérience en Formule 1, qui roulait pour la première fois en février, quand ils ont sorti la voiture, là, c'était la première fois qu'il roulait. Il s'est très bien débrouillé. Puis, bon, ça c'est le Albon de Toro Rosso. Celui de Red Bull, on va lui donner la note un peu plus tard. Mais quant à Pierre Gasly, moi aussi, j'étais encore plus généreux. Je lui ai donné un 8,5 parce que depuis son retour, on le voit, depuis son retour, il est beaucoup plus serein. Oui, il y a eu la perte de son meilleur ami, Antoine Hubert, qui l'a affecté, mais c'est comme si lui a donné un second souffle aussi, parce que les performances étaient là. Je pense qu'il a été entre la Belgique puis Abu Dhabi, ben, excluant Abu Dhabi, Il a été dans les points. C'est ce qui lui a permis ben, de finir septième, même s'il aurait pu finir sixième. Donc, et en plus, il y a eu ce podium au Brésil que personne, auquel personne ne s'attendait en fait. Donc, moi, je dois dire, le Gasly du retour de Toro Rosso mérite amplement un 8,5. Puis, je dois dire, s'il continue comme ça, oui, c'est vrai qu'il sera de retour avec l'équipe l'année prochaine, mais je pense qu'il va partir sur ses bases pour connaître une meilleure saison, je pense.
Je suis d'accord, j'ai rien à dire.
Maintenant, donc on a fini le bas du tableau. Là, on va entrer parmi les cinq premiers. Puis on va commencer avec l'équipe qui a fini cinquième avec 91 points. Renault, qui commençait une nouvelle ère avec un pilote qu'ils ont signé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Le Honey Badger, l'Australien, Monsieur Souriant, Daniel Ricciardo. Finalement, ça n'a pas été la saison espérée pour Renault. Moi, je leur ai donné un 6,5 parce que il y a eu deux courses où ils se sont démarqués à Montréal et à Monza. Je pense qu'en général, Renault a été, ben, parfois s'est tiré dans le pied. Parfois, ça a été des problèmes mécaniques aussi. Ben, là, je me répète un peu. Parce que ces problèmes mécaniques, c'est parce qu'ils se sont tirés aussi dans le pied. Mais je trouve que Renault a été vraiment en deçà des attentes. Parce que, honnêtement, moi, je les voyais pas cinquième. Je les voyais quatrième. Peut-être même avec une petite bataille avec Red Bull pour le troisième rang. Finalement, je me suis planté solide, puis je dois l'admettre aussi. Mais Daniel Ricciardo, première saison correcte, je lui donne un 7. Puis Nico Hülkenberg, beaucoup moins performant que l'année passée. Écoute, il aurait pu obtenir son premier podium en Allemagne s'il n'avait pas fait une sortie de piste sous la pluie. Mais à part ça, ça n'a pas été une saison vraiment comme celle en 2018 pour l'Allemand. Je lui donne un 6,5.
Bon, pour moi, ce qui est de l'écurie Renault, j'ai été déçu de leur saison. On se rappelle 2018, très belle bataille avec Red Bull, très belle bataille avec McLaren. Très belle bataille avec queue derrière tout ce qui était midfield. Ils tenaient bon. Malheureusement, je vais leur devoir leur donner un 6 pour Renault cette saison-ci. Je pense pour aussi Daniel Ricciardo. Sa première saison chez Renault, je ne pense pas que c'était la saison souhaitée. Avoir été lui, je serais resté chez Red Bull. J'aurais négocié une année de plus chez Red Bull. Il aurait été 1000 fois mieux. Il n'y aurait pas eu autant d'adaptations à faire. Et je pense qu'il aurait performé mieux chez Red Bull. Pour ce qui est de Nico Hülkenberg, je pense que ce qui l'a démotivé au fil de la saison, je pense que c'était savoir qu'il n'aurait plus le siège l'année après. Pour ce qui est de 2020. Avec l'arrivée d'Esteban Ocon, qui est annoncé depuis quasiment 3 courses déjà. Je vais lui donner pour Nico Hülkenberg, je vais Hülkenberg, là, Hülkenberg, je vais y arriver. Je vais lui donner un 7. Très belle performance au cours de la saison, très stable comme pilote. Je pense qu'il y a beaucoup d'écuries qui manquent leur opportunité en oscillant pas ce pilote-là. Pour ce qui est de Daniel Ricciardo, peut-être un 6,5. Encore un petit peu d'adaptation à faire avec la voiture, un petit peu d'adaptation à faire avec son ingénieur, puis tout ce qui est la grosse corporation de Renault. Je pense qu'il pourrait faire mieux en la saison 2020.
Oui, puis en même temps, moi je pense que Ricardo a de quoi être optimiste parce que je sais que Renault a peut-être connu depuis leur retour une de leurs mauvaises saisons, mais je pense que oui, Ricardo est peut-être optimiste, puis il ne dit pas ça parce qu'il est employé de Renault, mais je pense que c'est parce que peut-être que ça a été juste une année qui était plus difficile, surtout parce qu'il y avait la menace de Haas qui voulait faire une meilleure saison, de McLaren qui bon n'a plus à subir la pression de Fernando Alonso. Mais je pense que pour 2020, peut-être avec un pilote plus rapide que Esteban Ocon aussi, plus jeune, peut-être que ça va donner un peu d'élan à Renault. Puis je dis pas ça pour parce que Nico Hülkenberg ne faisait pas le travail. Au contraire, je pense que tout cela, là, ce quatrième, cinquième rang, là, si ce n'était pas de Nico Hülkenberg, je pense que Renault serait peut-être au niveau d'Alfa Romeo de Racing Point. Donc ça, il faut énormément donner de crédit. Puis je pense que ça va être autour de dingue. Ça va être autour de Ricardo de continuer le travail qu'a fait Hülkenberg. Donc je m'attends peut-être à une meilleure saison que ce qu'a connu Renault. Peut-être pas finir cinquième. Sixième, pardon. Je les vois peut-être quatrième ou cinquième. Mais je sens que ça va être une meilleure. Je pense que l'année prochaine, voyons avoir une meilleure saison.
Bon, parfait. Donc, on va suivre après ça avec l'autre écurie qui est
McLaren.
powered par Renault, McLaren.
Ouais.
McLaren qui a surpris tout le monde cette année avec 145 points, arrivé en quatrième place derrière Red Bull. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez McLaren? Y a-t-il eu un gros brassage à l'intérieur de l'écurie? Je ne sais pas. Mais encore cette année, McLaren, deux nouveaux pilotes. Un ancien, un presque vétéran, on pourrait dire, Carlos Sainz, et un rookie qu'on va appeler Lando Norris. Honnêtement, je suis surpris de la performance de McLaren cette année. Ils ont smashé toutes les attentes de tout le monde, je pense, dans mon français correct. Je vais donner un 8 pour McLaren. C'est un 8 qui est mérité pour l'écurie. Malgré les problématiques avec le moteur Renault chez Renault, ils ont su régler cette, ils ont su faire face à ces problématiques-là avec brio. Puis on s'entend-tu sans aucun questionnement que l'aérodynamisme de la voiture chez McLaren, c'est un autre niveau, là. On se le cachera pas. Fait que mon 8 est en. Là, Carlos Sainz, très 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 belle saison pour les deux pilotes. Même là, le Carlos Sainz et Lando Norris, je vais leur donner le même pointage, je vais leur donner un 8,5. Très 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 belle saison pour les deux pilotes. J'ai absolument rien à dire. Les seuls moments qui ont été problématiques, c'est quand c'était en rapport avec la voiture. Sinon, c'est deux pilotes qui pilotent très 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 bien, très mature. Je sais que Lando Norris avait certaines craintes, comme quoi qu'il n'était pas prêt pour la F1. Mais laisse-moi te rassurer, mon cher Lando, tu es prêt pour la Formule 1, puis tu sais performer dans la voiture que tu es.
Oh oui, clairement, clairement. Moi,
Continue comme ça.
oh oui, non, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai beaucoup plus de linge à faire avec McLaren parce que, tu sais, quand je parlais de la pression Fernando Alonso, je sais pas si c'est ironique que quand l'Espagnol, depuis que l'Espagnol est parti comme pilote titulaire, en fait, que ça aille bien, en fait. Parce que tu vois, bon, peut-être que c'est pas vrai qu'Alonso est un pilote égoïste, mais qui voulait tellement faire qu'il avait un caractère bouillant aussi. Mais tu vois que la structure a vraiment changé chez McLaren, parce qu'en plus de ça, ils ont recruté Andreas Seidl, qui était le directeur de course chez Porsche en endurance. Avant que la marque allemande décide de se concentrer vers la Formule E. Mais laisse-moi te dire que moi, je suis très impressionné par ce. Ben, en fait, j'étais pas surpris de cette arrivée parce que moi, j'ai apprécié le travail que Porsche a fait malgré ses 3 ou 4 saisons en endurance. Puis Seidl, ça a été quelqu'un. C'est un génie. Puis l'éthique de travail qu'il a amené chez McLaren depuis le Grand Prix d'Espagne. Prouve pour moi que McLaren a été pour moi la deuxième, voire même troisième meilleure écurie du peloton en général. Parce que je pense aussi que ça a vraiment donné de l'influence autant Carlos Sainz que Lando Norris, où ça a été de la ils ont eu de la confiance. Il y a une très belle amitié aussi entre les deux pilotes. Il y a une très belle connexion en fait qui s'est faite. Puis je pense que Andreas Seidel fait déjà un meilleur travail qu'Éric Boullier. Mais d'après moi, je pense qu'il aurait dû sauter sur l'occasion. Dès qu'ils ont décidé de remercier Boullier après le Grand Prix de France ou de Grande-Bretagne, je crois, ils auraient dû commencer à faire de l'œil à Andreas Seidel. Parce que pour moi, oui, la signature de Sainz, ça a été une des meilleures, mais celle de Seidel en 2019, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc, c'est pour ça que je donne un 9 à McLaren, un 9.5 à Carlos Sainz. Non, je m'en cache pas, c'est top 3 définitivement cette saison. Et Lando Norris, pour la saison qu'il a connue, un 8.5.
Parfait, parfait. On va poursuivre après avec mon écurie favorite, Red Bull Racing Honda.
Oui.
Première année pour le motoriste Honda dans la grande école. Red Bull qui a décidé de faire confiance à Honda pour la saison 2019, qui n'était pas un faux pas, faut pas se le cacher. Je pense que c'était un pas vers l'avant et bientôt un deuxième pour la saison 2020. Ce qui est une très, très, très bonne chose. L'écurie a su démontrer tenacité devant Mercedes et devant Ferrari. Eux qui ont amassé 417 points. Et oui, ils ont eu des problématiques avec leur pilote numéro 2 en mi-saison. Mais je crois qu'ils se sont bien rattrapés. Pour ce qui est de ma cote que je vous donne à l'écurie, je leur donne un 9. 9 très mérité pour Red Bull. Pour ce qui est des pilotes, Alex Albon, lui qui a su embrasser le pas assez rapidement chez Red Bull, qui était carrément une autre cadence pour lui, qui s'apparaissait. L'écurie des grands, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Je pense que il mérite aussi un 9. Pour ce qui est de Max Verstappen, je vais être méchant là avec mon pilote favori là, mais je vais lui donner un 8. Je pense qu'il a fait des erreurs un petit peu, je pense que c'était un petit peu de greediness qu'il avait, un peu trop de d'égoïsme, un peu encore déjà de jeune, mais il mérite son 8. Je lui donnerais pas 9 comme Alex Albon. Pour ce qui est de Pierre Gasly chez Red Bull, et ça a été dur comme début de saison chez Red Bull. Je vais lui donner un 6 sur 10.
Bon, moi, je suis d'accord avec toi. Déjà, on va mettre les choses au clair. On est d'accord avec Pierre Gasly, il mérite un 6. Red Bull, moi, j'ai donné un 8.25. J'hésite entre le 8 ou le 8.5 parce que, oui, ça a été une très bonne saison pour Red Bull, mais ça a été surtout grâce à Max Verstappen. Tu dis que t'as été sévère avec lui. Moi j'ai été un peu plus généreux parce que je trouve que Max Verstappen cette année là, c'était un Max Verstappen beaucoup plus mature, en continuité de ce qu'il avait montré l'année dernière aussi, hormis Brésil 2018. Mais j'ai trouvé Verstappen beaucoup plus constant, un peu moins agressif sur les bords. Je lui donne un 9.5 parce qu'il a été capable de devenir un pilote numéro 1 chez Red Bull. Maintenant que, parce qu'on n'était pas sûr si c'était Ricardo, lui, qui était le pilote numéro 1. Mais moi, je trouve que maintenant, Verstappen est un vrai pilote numéro 1. Il lui manque encore quelques outillages, mais je pense que ça va lui prendre un an ou deux avant de les avoir. Mais ce qu'il a montré cette année, trois victoires, surtout celle en Autriche, qui a été probablement une de mes fins de course préférées cette année avec le retour qu'il a fait sur Charles Leclerc.
Mm-hmm.
Pour moi, c'est un point fort. Son moment vraiment horrible, ça a été Mexico. Mexico, la bêtise qu'il a faite avec les drapeaux jaunes, la course qui s'est faite aussi. Mais pour moi, ça ne change aucunement l'opinion que j'ai de Max Verstappen. C'est pas, il a la, il est peut-être Il va peut-être devenir un champion du monde. Qui sait? Parce que je vais te le dire, peut-être que tu l'as. Je sais pas si tu en as entendu parler, mais Hamilton avait dit lors du gala de la FIA vendredi que Verstappen avait appelé pour un volant
Ouais, qui
blanc.
avait appelé Toto Wolff. Qui avait appelé Toto Wolff, oui, j'en avais entendu parler.
Oui.
Mais ça, on s'entend que c'est des pourparlers, fait que je ne sais pas si c'est quelque chose qui... Mais il avait déjà menacé, on se rappelle, on avait déjà menacé l'écurie Red Bull s'il donnait pas les performances qu'il voulait, qu'il allait voir prendre les écuries en haut de Red Bull. Puis, mais ça, c'était rien à cacher, là.
Ouais.
On savait ça.
C'est ça, on savait déjà, mais imagine, il transporte tout ce qu'il a appris chez Red Bull, par exemple chez Mercedes, pour 2021 ou même au-delà de cela. Il y a de fortes chances qu'il devienne champion du monde. Donc, moi, c'est pour ça que je donne un 9,5 parce que ce qu'il a montré cette année, c'était excellent. Je pourrais même à la limite lui donner un 9. Mais quant à Alex Albon, moi je lui donne un 8,5 parce que arriver avec une nouvelle écurie sans avoir à faire des tests réels sur la voiture, tu sais, quand le premier Grand Prix c'est ton test réel, tu découvres la voiture, puis tu réussis à réaliser de très belles performances. On s'entend que, bon, c'est dommage ce qui s'est passé au Brésil malgré le yeet d'Hamilton,
Ouais.
Mais Albon a été absolument solide au cours de sa deuxième moitié de saison. Puis c'est pour ça que je lui donne un 8,5 sur 10.
Parfait. Bon, on va y aller au haut du peloton maintenant. Prochaine écurie, deuxième position, Ferrari.
Ouh,
Ouh, beaucoup de choses à dire, hein?
par où commencer?
Dis-moi, c'est à ton tour. Commence, mon cher, je t'écoute.
Oh boy. 6,5 automatiquement. 6,5. J'ai pas le choix de leur donner. J'ai pas le choix de leur donner cette note parce que on se rappelle tous au début, lors de la pré-saison, Ferrari était clairement la meilleure voiture du plateau, la plus rapide, mais peut-être pas la moins fiable. On arrive en Australie, boum, doublé Mercedes, Ferrari finit à 1 minute du meneur. Et là. Ensuite, il y a ces histoires de consignes d'équipe qui, en début de saison, où ils se mettent les pieds dans les plats. Il y a Charles Leclerc qui montre déjà de très bons signes, mais malheureusement, il s'est fait voler une victoire au Bahreïn en raison d'un problème de moteur. Et ensuite, bon, il y a eu son accident lors des qualifications en Azerbaïdjan aussi, qui aurait pu lui permettre d'obtenir sa vraie première victoire en Formule 1. Et il y a ce Grand Prix du Canada. Oh boy. On va se garder le Grand Prix du Canada pour la revue de fin de saison. Mais disons, il y a eu la première partie qui était horrible. Puis ensuite, il y a eu la deuxième où vraiment ça a été Charles Leclerc qui a explosé solidement là, dans le bon sens du terme, là, avec deux victoires coup sur coup en Belgique et en Italie. Et ensuite, Sébastien Vettel qui réussit à gagner à Singapour. Et ensuite, ce mess en Russie avec les consignes d'équipe au départ et l'abandon de Vettel par la suite. Puis pour bien terminer la saison. Il y a eu cet accrochage au Brésil. Mein Gott. Ah.
Ouais. Boy.
Ouais, donc,
OK.
non.
Bon,
Ouais.
pas une belle saison pour Ferrari. En fait, on a connu une meilleure saison chez Ferrari. Moi, de mon côté, je vais leur donner un 7 pour Ferrari. Oui, OK. On s'entend qu'il y a eu des gros up and down pour Ferrari. On se le cachera pas. Deux pilotes qui ont une tête sur les épaules, deux pilotes qui veulent gagner. Ça a fait des frissons chez Ferrari, puis ça l'a paru. un peu comme, je la rappelle, un peu comme Max Verstappen puis Daniel Ricciardo dans le temps chez Red Bull. Les deux veulent gagner, les deux sont performants, les deux ils savent ce qu'ils veulent faire. Mais ça crée des accrochages, ça crée des tensions un peu comme au Brésil.
Ouais, ouais.
Excuse-moi. Ensuite, pour ce qui est des pilotes, Charles Leclerc, 6,5 sur 10. Puis pour Vettel, je vais lui donner un 5. Je trouve que il a perdu l'avantage, il a perdu le fil, il a perdu le beat, comme on va dire, puis c'est très 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 décevant.
Ouais, moi j'étais un peu plus généreux avec Leclerc parce que quand même sur l'ensemble de la saison, il a été très très bon. Je pense qu'il s'est même il s'est adapté ensuite parce que tu sais, en début de saison, je l'ai trouvé un peu plus délicat et tout. Mais je pense que le fait d'avoir perdu le Grand Prix sur un dépassement un peu agressif sur Max Verstappen en Autriche, ça lui a donné un peu plus de pep pour pouvoir sortir les coudes quand il est question de se défendre en piste. On l'a vu même en Grande-Bretagne, la bataille qu'on a pu assister entre les deux, là, c'était du bonbon. Même chose en Italie, lorsqu'il a été à la limite contre Lewis Hamilton, ce qui lui a valu un drapeau noir et blanc pour un avertissement. Mais à part ça, il a été très bon, donc c'est pour ça que je lui donne un 8. Puis quant à Sébastien Vettel, je lui donne un 5. Ça n'a pas été sa saison, en tout cas, vraiment en deçà des attentes. C'est la première fois qu'il est en deçà des attentes chez Ferrari. Bon, il y a eu 2016, mais il était quand même... Mais 2019, ça a été sa pire année avec la Scuderia. Donc, 5 pour Vettel, 8 pour Leclerc. Puis en général, un 6,5.
Bon.
Et pour conclure, on finit avec l'écurie championne du monde pour la 6e fois consécutive. C'est l'écurie Mercedes. Brian, est-ce que tu veux commencer?
Oui, bien sûr, merci. C'est plus que tu me lances à balle comme ça. On va y aller, bref, pour Mercedes, quasiment une saison parfaite. Oui, des hauts et des bas pour certaines courses, mais honnêtement, ça n'est pas comparable aux autres écuries. Je trouve que ils ont très, très, très bien performé. Les flèches d'argent ont su montrer qui c'était qui le papa dans toute la gang. Là. Ça l'a paru. Pour l'écurie, en tant que tel, je donne un 9. Un 9 parce que je pense qu'aucune écurie est parfaite. Mm-hmm. C'est ce que je pense. Ouais. Et pour ce qui est de Lewis Hamilton, je lui donne un 9,5. Pour ce qui est de Valtteri Bottas, je lui donne un 9,5 aussi. Les deux pilotes, très matures, très, très, très matures, méritent leur siège chez Mercedes, méritent d'être dans cette écurie-là. Bottas, même que lui, je vais lui donner même là un 9,6 juste pour battre Lewis Hamilton. il a su être compétitif, il a su se battre tout le long de la saison pour le podium, pour la tête du championnat, puis il pensait très 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 près d'être champion du monde. Mais s'il continue dans cette voie-ci au niveau de la persévérance, je ne serais pas surpris de le voir champion du monde en 2020.
Oh, ben ça peut être une bonne option, ça. Mais moi,
c'est très très plausible aussi. Là.
Oui, non, c'est ça. Écoute, on pourrait avoir une bataille à 5 si on le veut entre les deux Mercedes, les deux Ferrari, puis Max Verstappen. Je m'excuse, Alex. Mais moi, je suis un peu plus sévère avec Bottas parce que. On a beaucoup parlé du Bottas 2.0, de Monsieur Porridge, mais je trouve que on a retrouvé, on a encore vu les défauts de Bottas. Manque de constance à certaines occasions. Tu vois, je pense que Espagne, Monaco, Canada, à la limite aussi, je pense, Autriche. Ça a été de ces courses, et surtout l'Allemagne, ça a été des courses où Il aurait pu faire mieux. Donc, oui, oui, c'est amélioré, mais je pense que ses défauts de constance étaient encore là. Et c'est peut-être ça aussi qui fait en sorte que Hamilton a pu le battre vraiment à pleine couture vers la fin de la saison. Parce que il n'a pas été capable de capitaliser là où il fallait que ça marche, là où il fallait que ce soit. Il fallait élever son cran d'un niveau. C'est peut-être ça aussi qui. C'est pour ça que je donne un 8,25. Parce que je voulais mettre un 8,5, mais encore là, c'est un peu généreux. Ça aurait été un peu généreux. Mais je pense que Bottas, d'après moi, mérite cette note. Pas parce que il n'a pas connu une mauvaise saison, mais c'est parce que il y a eu des courses où il aurait pu faire mieux. 1000 fois mieux même. Et je pense que pour 2020, justement pour qu'il soit champion, il faut qu'il soit un peu plus constant. C'est ça le truc. C'est pour ça que Lewis Hamilton, année après année, est capable justement de faire le. Est capable de battre tout le monde. Parce que il fait pas. Il fait pas. Il ne laisse jamais rien de côté. Il veut toujours le meilleur. Puis tu vois, même au Brésil, là, il voulait tellement gagner cette course que, tu sais, je veux pas dire emmerdait, mais il disait, donnez-moi la meilleure stratégie, là. Donc, tu sais, Bottas, lui, c'était pas ça, c'était, bon, fais ceci, dis OK. C'est tout. Donc, c'est peut-être ça aussi qui manque. Il manque encore un peu de feu du côté de Bottas. Donc, moi aussi, je vais donner un. Moi aussi, pour compléter, je vais donner un 9,5 sur 10 pour Mercedes. J'aurais même pu donner un 9,75, mais tu sais, il y a eu des courses où ils auraient pu faire mieux.
Exact.
Puis, en général, Brian, pour le mot de la fin, en général, la saison, tu lui donnes combien sur 10?
La saison, je lui donne un 8 sur 10. Ça a été une saison extrêmement excitante. Plein de revers. C'était exceptionnel, pour être honnête avec toi. Plein de choses inattendues aussi. Un 8 sur 10 pour la belle saison 2019. Espérons que la saison 2020 soit tout autant excitante et tout autant accrochante que 2019.
Ah oh oui, moi je suis d'accord. Moi aussi, un 8. Et tout ça, ça a commencé à partir de Autriche jusqu'à Brésil, je te dirais, on a eu que des bonnes courses. Même Russie qui était un grand prix là, qui est soporifique, même si le circuit est magnifique. Même la Russie, là, je te dirais, ça a été une bonne course en général. Donc, non, vraiment. Malgré la domination de Mercedes en début de saison, on a eu de très bonnes courses.
Parfait.
Et c'est ce qui complète sur cette note le bulletin de notes de la saison 2019 de Formule 1 fait par le bulletin F1. Alors, si vous voulez réagir aux notes qu'on a données à Brian et moi, vous pouvez le faire sur notre site bulletinf1.com ou sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, facebook.com/bulletinf1 ou sur Twitter, @lebulletinf1 en un mot. La balado-diffusion sera disponible évidemment sur notre site web, mais sur vos podcasts préférés, vos plateformes préférées, entre autres Spotify, Google Play et Apple Podcast. Brian, un énorme merci pour ta présence.
Merci à toi, Abdou.
La balado-diffusion du bulletin F1 fera relâche pour les 2 prochaines semaines. Question de bien préparer la revue de fin de saison qui sera diffusée et publiée vers la fin de l'année. Entre-temps, surveillez notre site web parce qu'on aura un top 10, en fait un top 20 des plus grandes courses de la décennie 2010. Et l'alphabet de la saison 2019 de la Formule 1. Je suis votre animateur, Abdou Sall. Merci de nous avoir écoutés. On continue toujours de rouler avec le bulletin F1 et faites attention sur la route.